Je vous invite à vous lever. On se tourne sur soi-même et puis on peut s'asseoir. Je vous invite à vous asseoir. Dans notre Église, nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui la fréquentent actuellement. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour tous ceux qui vont fréquenter l'Église à l'avenir. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ceux qui ont fréquenté l'Église dans le passé. Une personne qui a fréquenté cette Église autrefois s'appelle Rebecca. À gauche sur votre écran, mon épouse est à droite, Brigitte. Nous avons pu aller voir Rebecca il y a 3 semaines. Nous étions aux États-Unis pour des rencontres, pour des réunions. Et Rebecca nous a rejoints quelques jours. Donc elle a quitté Lyon il y a 5-6 ans maintenant pour la retraite. Et elle vous salue tous. Elle a eu des soucis de genoux, au pluriel, et du dos. Mais elle a la joie du Seigneur et le pays du Seigneur. D'autres anciens membres de l'Église que nous avons vus dernièrement, la semaine dernière, à gauche, Monique Kadiou-Joglou, qui a quitté l'Église il y a plus de 50 ans, qui est en Bretagne, qui a fondé avec son mari Dimitri un centre de vacances. Et à droite, il y a sa belle-sœur Marie Kadiou-Joglou, qui a pris 40 ans de service en RCA. Elle a pris sa retraite et elle est en Bretagne et nous les avons vus il y a 10 jours. Voilà pour les annonces bis. Je vous invite à trouver le livre de la Genèse et le chapitre 9. Genèse chapitre 9. Nous avons commencé à regarder la vie de Noé il y a 3 mois peut-être. Il y a eu 5 ou 6 messages sur sa vie. Nous arrivons donc à, je crois que c'est le dernier message sur la vie de Noé pour l'instant. Et nous lisons à partir du premier verset du chapitre 9. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. » Vous serez craint et redouté de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel, de tout ce qui se déplace sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Quant à vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « J'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations. J'ai placé mon arc parmi les nuages et elle vous servira de signe de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. l'eau ne se transformera plus en déluge pour détruire toute créature. L'arc sera parmi les nuages et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute espèce qui se trouve sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute créature sur la terre. » Nous arrêtons la lecture ici. Alors, nous n'allons pas retracer et rappeler les diverses étapes du déluge, mais nous allons attaquer tout de suite ce texte, et je divise ce texte en deux phrases. Versets 1 à 7 se résument de la manière suivante, diverses consignes. Et versets 8 à 17, un divin signe. Diverses consignes, versets 1 à 7, divin signe, versets 8 à 17. Diverses consignes. Dieu donne des consignes à Noé et à sa famille. Et ces consignes se résument en trois mots. Population, alimentation, réglementation. Facile à retenir. Population, reproduisez-vous, dit-il. Devenez nombreux. Repeuplez la terre. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, nous sommes tous descendants de Noé. Population. Ensuite, alimentation. Vous pouvez manger de la viande. Est-ce que ça veut dire qu'avant le déluge, ils étaient tous végétariens? Sans doute. Mais en tout cas, Dieu autorise les gens à tuer des animaux et à manger la viande. Troisièmement, réglementation. À l'époque, il n'y avait pas de gouvernement. Dieu fait allusion un peu à un gouvernement ici, mais il dit, si un homme tue un homme, si un être humain tue un être humain, la vie de celui qui tue sera redemandée. Dieu instaure la peine de mort. Ça peut nous choquer, nous qui sommes intelligents, ou vous qui êtes intelligents, je devrais dire, en 2018. Mais il en est question dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, mais avec des critères, des conditions et pas mal de précisions. Mais pour Dieu, à cette époque-là, pour l'humanité, c'était grave. Et encore, on doit dire, aujourd'hui, c'est grave d'enlever la vie après la naissance et avant la naissance. Aux yeux de Dieu, c'est grave. Aux yeux de nos contemporains, ça se discute. En tout cas, supprimer une vie humaine est quelque chose de grave. Diverses consignes, on pourrait en parler longtemps, mais population, alimentation, réglementation. Parlons du signe, un divin signe. Il est question de l'alliance de Dieu dans ces versets. D'ailleurs, je crois qu'à cette reprise, on parle de l'alliance. Verset 9, verset 11, verset 12, verset 13, verset 15, verset 16, verset 17, le mot alliance apparaît. Donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose d'important que Dieu mentionne le mot alliance si souvent. Et la première fois qu'on a ce mot « alliance » dans la Bible, c'est dans Genèse 6, verset 18, que je vais vous lire. 6, 18, Dieu dit, « Cependant, j'établis mon alliance avec toi, Noé. » Une alliance. Quelle est l'alliance que Dieu établit? Eh bien, il y a alliance et il y a une promesse divine liée à cette alliance. Plus jamais de déluge universel. Nous n'avons pas la date à laquelle Dieu a promis cela, mais je vous pose la question, est-ce que Dieu a tenu sa parole? Est-ce qu'il y a eu d'autres déluges universels depuis ce moment-là? Qui dit mot consent? Merci de votre accord. J'aime bien quand les gens sont d'accord avec moi. Dieu a tenu sa parole. Et il s'agit au verset 16 d'une alliance éternelle. À l'avenir, il n'y aura plus jamais de déluge sur la terre. Je parle de déluge, je ne parle pas d'inondation. Et on en connaît souvent. Mais il n'y aura plus de déluge sur la terre. Une alliance entre Dieu et Noé, entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et toute créature, tout animal, tous les poissons. Une alliance entre Dieu et sa création. Dans la Bible, il y a plusieurs alliances. L'alliance entre Dieu et Noé. Genèse 9, mentionné aussi au chapitre 6. Une autre grande alliance, c'est l'alliance entre Dieu et Abraham. Genèse 12, 13, 15, 17, etc. Une autre alliance entre Dieu et Moïse. Exode 19, Exode 20. Il y a 5 grandes alliances d'ailleurs dans la Bible. 4e alliance entre Dieu et le roi David. 2 Samuel 7, etc. Et la 5e alliance, entre Dieu et son Fils. Mentionné, par exemple, dans Jérémie 31, Luc 22 et Hébreux 8. Par rapport à ces alliances, je me suis rendu compte que chaque alliance mentionnée ici, entre Dieu et des gens, a eu lieu, plus ou moins, sur une montagne. Entre Dieu et Noé, le mont Ararat, là où l'arche s'est posée. Entre Dieu et Abraham, en partie sur le mont Moria, Genèse 22. Entre Dieu et Moïse, c'est de quelle montagne? Voilà. Sinaï, le mont Sinaï. Entre Dieu et David, ça, c'est moins évident. Mais le mont Sion, c'est une façon d'appeler Jérusalem. Le mont Sion. Et entre Dieu et son Fils, le mont du Calvaire ou le mont Golgotha. Dieu a choisi de se révéler sur des montagnes. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes obligés d'aller en montagne pour prier. On peut, mais on peut prier, heureusement, n'importe où. Mais, autre chose par rapport à ces alliances, c'est que les alliances concernent certaines personnes. Je m'explique. L'alliance entre Dieu et Noé concerne toute l'humanité. Je l'ai déjà dit, et cela est marqué dans Genèse 9. L'alliance entre Dieu et Abraham concerne surtout la famille d'Abraham. Et les descendants. Le peuple juif. L'alliance entre Dieu et Moïse concerne le peuple hébreu. L'alliance entre Dieu et David concernait la famille de David. Il y aura toujours un de tes fils sur le trône. C'est pour ça que Jésus est appelé roi des Juifs, parce qu'il est descendant du roi David. Et l'alliance entre Dieu et son fils concerne tous les chrétiens. Et cette alliance est appelée une alliance nouvelle. La coupe de la nouvelle alliance, dit Jésus, c'est une alliance de paix, une alliance qui est bien meilleure, une alliance éternelle, et il y a d'autres adjectifs aussi. Mais je me suis rendu compte, après avoir fait cette PowerPoint, qu'il y a un symbole ou un signe avec chaque alliance. L'alliance avec Noé, c'est bien sûr l'arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham, la circoncision. L'alliance avec Moïse, l'étape de la loi, et ensuite le tabernacle, l'arche de l'alliance. L'alliance avec David, c'était à la fois le temple, mais surtout le trône. Et l'alliance avec Jésus, le pain, le vin, la croix. Parlons de ce que j'appelle le signe de l'alliance. Il est question de l'arc en ciel. Savez-vous combien de fois on parle de l'arc-en-ciel dans la Bible? Je vous en pose des questions aujourd'hui. J'espère que vous êtes encore tous réveillés. Combien de fois est-ce qu'on parle de l'arc-en-ciel dans la Bible? On parle de l'arc-en-ciel dans Genèse 9 et à deux reprises dans l'Apocalypse. Autrement dit, dans le premier livre de la Bible et dans le dernier livre de la Bible. Apocalypse 4, Apocalypse 10. L'arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Il est vrai qu'Ézéchiel, le prophète, voit quelque chose et il dit, cela ressemble à un arc-en-ciel. Mais ressembler à un arc-en-ciel et être un arc-en-ciel sont deux choses un peu différentes. Donc l'arc-en-ciel est le signe ou le symbole de la promesse de Dieu. Et Dieu dit, quand je vais voir l'arc-en-ciel, je vais me souvenir de la promesse. Et cela sous-entend, Noé, quand tu vois l'arc-en-ciel, rappelle-toi que moi j'ai promis. Ceci dit, d'autres personnes, d'autres groupes ont pris l'arc-en-ciel comme symbole de leur mouvement. Je donne des exemples. Au XIVe siècle, en Amérique du Sud, il y avait l'Empire Inca. Et leur drapeau était un arc-en-ciel. Le drapeau des pacifistes en Europe, pendant une partie du XXe siècle, était un drapeau arc-en-ciel. Les écologistes ont un drapeau arc-en-ciel. Rainbow Warrior, le fameux bateau qui a coulé, je crois bien, en Nouvelle-Zélande, Rainbow Warrior, c'est le warrior, le guerrier de l'arc-en-ciel. Et le drapeau du mouvement LGBT, lesbienne, gay, bisexuel et transgenre, depuis 1978, donc depuis 40 ans, c'est l'arc-en-ciel. Mais si vous regardez le drapeau, si vous le regardiez il y a 40 ans, vous allez voir qu'il y a 8 couleurs. Tandis que dans l'arc-en-ciel, il y en a 7. Et dans le drapeau du mouvement LGBT aujourd'hui, il y a 6 couleurs. Ils ont supprimé une couleur. Alors, je ne vais pas vous barber avec tous les détails de ça, mais c'est intéressant que plusieurs groupes prennent l'arc-en-ciel, et c'est vrai que c'est beau, un arc-en-ciel, et utilisent ça comme symbole. La ville de Toronto se vante d'être la capitale mondiale du mouvement LGBT. Et au lieu d'avoir une journée de Gay Pride, tout le mois de juin est consacré au Gay Pride. Nous étions là-bas il y a quelques jours et partout, il y avait des drapeaux arc-en-ciel. Devant des associations sportives, devant des restaurants, devant des banques, devant des églises, partout. Intéressant. Revenons donc à Noé et à son arc-en-ciel. Une promesse que Dieu a faite et une promesse que Dieu a tenue. Et je vous pose une question, mais quand vous voyez un arc-en-ciel aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez chercher où ça commence et où ça va se terminer? Et il paraît qu'il y a un grand trésor au bout de l'arc-en-ciel, mais pour l'instant, je n'ai jamais trouvé. Mais si quelqu'un ici le trouve, il est obligé de le partager avec les frères et sœurs. Mais quand vous voyez un arc-en-ciel, je vous encourage à faire une pause et à adorer votre Créateur, à remercier votre Père pour cette beauté et pour ce signe et pour ces promesses. Pas que cette promesse-là, mais toutes ces promesses. Et je vous encourage à remercier votre Père pour son Fils, le Seigneur Jésus. Vous pouvez louer le Seigneur pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa paix, pour son salut. Tout cela se trouve en quelque part dans l'arc-en-ciel. Il y a, à la fin de la guerre de sécession aux États-Unis, il y a eu une rencontre avec Lincoln, le général Grant et deux autres personnalités pour signer l'accord de paix. Et il y a eu une peinture qui était faite pour rappelé cet événement. Et sur cette peinture, dans la fenêtre de gauche, à l'extérieur, il y a un arc-en-ciel. Ce qui veut dire que quand le peintre a peint ce tableau, par rapport à la paix, par rapport à l'unité, il a quand même mis un arc-en-ciel dans l'espoir que cet accord, cette alliance soit durable. Et nous savons que c'était durable. Mais j'ai trouvé intéressant que l'artiste mette un arc-en-ciel derrière cette signature pour la paix. L'alliance, le signe de l'alliance, Noé. Certaines personnes, en regardant le livre de Genèse, et surtout les chapitres 6 à 9 qui parlent de Noé, aiment bien trouver des similitudes entre Noé et Jésus. D'autres le font avec Joseph et Jésus. D'autres le font avec le roi David et Jésus. Et bien qu'on ne puisse pas vraiment comparer quelqu'un à Jésus, qui était parfait, et tous les êtres humains sont imparfaits, néanmoins, on peut trouver des ressemblances, des similitudes, et on peut se poser des questions, mais jusqu'à quel point est-ce que moi, je ressemble à Jésus? Je vous donne quelques points de similitude, de ressemblance entre Noé et Jésus. J'en ai trouvé 20. Noé signifie paix. La paix. Et Jésus-Christ dit quoi? Il est le prince de la paix. Si vous connaissez Jésus, remerciez-le pour la paix qu'il vous donne. Et si vous n'êtes pas en paix aujourd'hui, demandez-lui pourquoi vous n'êtes pas en paix aujourd'hui. Peut-être vous savez pourquoi. Peut-être vous choisissez d'ignorer pourquoi. La paix. Numéro 2, Noé marchait avec Dieu. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Il marchait avec Dieu aussi. Est-ce que je marche avec Dieu? Je suis chrétien. Et est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que vous marchez avec Dieu jour après jour? Numéro 3, Noé était un prédicateur sans cesse. Il a prêché pendant sans doute plus d'un siècle. Jésus a prêché, parlé, raconté des paraboles sans cesse. Numéro 4, Noé a connu peu de succès. Combien de conversions dans le ministère de Noé? Ben, on sait que ses trois fils, ses trois belles-filles et sa femme ont cru au message. Mais les autres? Et combien de personnes ont cru suite au ministère de Jésus? Pas des millions, pas des milliers. Mais ils ont persévéré. Tous les deux, numéro 5, ont été rejetés et incompris. Noé, pourquoi est-ce que tu construis un bateau au milieu du désert? Tu n'es pas un peu zinzin? Parfois, les chrétiens qui veulent être fidèles avec le Seigneur sont rejetés, mal compris, traités de zinzin. Numéro 6, Noé vivait dans un monde qui était complètement pourri. Mais il a su rester intègre malgré toutes les influences autour de lui. Jésus vivait dans un monde complètement pourri. Mais il est écrit dans Hébreux 7, il était séparé des pécheurs. Il fréquentait des pécheurs, il était ami des pécheurs, mais il est resté pur dans tous les domaines de sa vie. Est-ce que nous sommes influençables par les gens qui nous entourent? On a des bonnes influences autour de nous, mais on a tous des mauvaises influences. Est-ce qu'on est influençable? Numéro 7, tous les deux avaient une œuvre particulière à accomplir. Construire une arche, mourir sur une croix. Il s'agit du bois. Bois pour l'arche, bois pour la croix. Tous les deux nous illustrent qu'il y a un seul moyen pour éviter la colère et le jugement de Dieu. Pour Noé, c'est de monter dans l'arche. Pour ceux qui suivent Jésus, c'est de croire qu'il est mort pour nos péchés. Il est question aussi du fait que Noé a offert un sacrifice à Dieu. Une fois qu'ils sont sortis de l'arche à la fin de chapitre 8, vous avez vu ça il y a 2 semaines avec Jérémie, eh bien, il a offert un sacrifice. Et Jésus lui-même a offert sa vie comme une offrande, comme un sacrifice. Et l'apôtre Paul nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, qui est un culte normal, raisonnable. Ensuite, je crois que je suis au numéro 11, vers la fin du déluge, il y a la colombe. Au début du ministère de Jésus, il y a eu la colombe. Noé a construit, numéro 12, une arche. Jésus, aujourd'hui, est en train de construire ou bâtir son église, son peuple. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, de Jésus, de Matthieu 16. Numéro 13, Noé et sa famille ont été sauvés. Sauvés des eaux, un peu comme Moïse d'ailleurs. Mais la famille de Jésus, tous ceux qui se confient en lui, font partie de sa famille. Et tous les membres de la famille de Jésus seront sauvés. Numéro 15, ou 14, je ne sais pas si vous comptez, mais je ne compte plus, j'ai perdu les chiffres. Une porte. La porte de l'arche a été fermée. C'était quel fils de Noé qui a fermé la porte de l'arche? C'est Dieu, merci, qui a fermé la porte. Et un jour, aujourd'hui, l'invitation est ouverte à quiconque croit. Mais un jour, Dieu va fermer la porte. Il y a des paraboles dans l'évangile de Matthieu qui parlent de ça. Que tous sont invités en quelque sorte au mariage. Mais un jour, Jésus dit, on va fermer la porte. Et si vous arrivez trop tard, ah ben, ce sera trop tard. La porte restera fermée. Dans l'arche, il était question de la sécurité. Pas de danger pour 8 personnes dans l'arche. Et en tant que chrétien, où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui? Dans la main de Dieu. Si Gilbert avait continué, Jean 10, il aurait lu, « Je connais mes brebis, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. » On est en sécurité, dans la main du Seigneur. Entrer dans l'arche était en quelque sorte un engagement. Il fallait y croire. Et 1 Pierre 3 nous dit que suivre Jésus, s'engager par le baptême, est aussi un engagement. À l'époque de Noé, qui a pris l'initiative de construire l'arche? Est-ce que Noé a dit un beau jour, mais je vais me construire une arche? Non. Dieu a pris l'initiative. Et pour nous sauver de nos péchés, Dieu a pris l'initiative. Il a envoyé son Fils. Il nous a réveillés spirituellement. Il nous a montré nos péchés. Il nous a attirés vers lui. Dieu a pris l'initiative. Et il y a eu le jugement à l'époque de Noé. Et un jour, il y aura le jugement quand Jésus reviendra. Jésus en parle dans Matthieu 24. En parlant des contemporains de Noé, ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Certaines personnes savaient que Noé avait parlé d'un déluge. Mais il ne voulait rien savoir. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et Jésus dit, il en ira de même quand je vais revenir. Les gens ne se doutent de rien. Les gens ne veulent rien savoir. Mais je vais revenir. Et là, ce sera la fin. Trop tard. Alors, je vous pose une dernière question. Est-ce que vous êtes tous prêts pour le retour de Jésus, pour la rencontre avec lui? Si vous n'êtes pas prêts, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez régler ça aujourd'hui. En parlant avec un des anciens, en parlant avec un chrétien, une chrétienne que vous connaissez ici ce matin. mais aussi sûr que le déluge est venu, aussi sûr que Jésus va revenir. Jésus lui-même le dit. Et qui sommes-nous pour contredire le Fils de Dieu? Ainsi donc se termine notre série sur Noé. N'oublions pas l'alliance, n'oublions pas le signe de l'alliance. Et quand vous voyez un arc-en-ciel, et je peux vous dire que dans mon pays, il y a beaucoup d'arc-en-ciel parce qu'il pleut beaucoup. Cette semaine, vous ne verrez pas d'arc-en-ciel à Lyon, me semble-t-il. Mais quand vous allez voir un arc-en-ciel, faites une pause. Baissez la tête. Remerciez Dieu pour la beauté de sa création. Remerciez Dieu pour l'envoi de son Fils et pour toutes ses promesses. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est vivante et même ces paroles écrites il y a des siècles, des millénaires, sont tout à fait d'actualité. Seigneur, merci pour la beauté de ta création. Aide-nous à aimer ta création. Aide-nous aussi, dans la mesure de nos moyens, à protéger ta création. Merci pour l'envoi de ton Fils pour nous sauver. Merci pour le salut merveilleux que nous avons en lui. Et nous voulons prier que d'autres personnes puissent bénéficier de la paix, de la joie et du pardon que Jésus seul peut donner. Nous te le demandons en son nom. Amen.